Décarboner les territoires, une émission en partenariat avec Enerlis.
Bonjour à tous, en direct du Salon des maires et des collectivités locales au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris pour aborder ce sujet, décarboner les territoires, une émission que l'on coproduit et que l'on fonde en partenariat avec Enerlis. Enerlis qui est bien représentée ce matin puisque j'ai deux de ses membres à mes côtés. Bonjour Philippe Nial.
Bonjour.
Vous êtes vous le directeur commercial d'Enerlis et à vos côtés on va saluer Pierre-Marie Berlingéry, bonjour.
Bonjour,
vous
bonjour
êtes
à tous les auditeurs.
Le directeur de la division solaire d'Enerlis.
Absolument.
On va voir ce que ça veut dire. Philippe, juste avant, est-ce que vous pouvez nous présenter Enerlis?
Absolument. Enerlis est une société qui est une jeune société puisqu'on fête son 8e anniversaire. Donc une société qui a pour mission, qui se définit comme étant un opérateur global de la transition énergétique. Je pense qu'on aura l'occasion tout au long de cet entretien de développer un petit peu les différentes facettes de ce que recouvre cette définition. Mais pour le sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, effectivement, décarboner les territoires fait partie de notre mission principale à travers trois grands axes. Un, rénover les bâtiments. Deuxièmement, c'est les énergies renouvelables. Et le troisième, c'est la mobilité durable. Et on verra aussi qu'il y a des bons exemples à citer et à partager avec tous nos auditeurs.
Et c'est dans ce cadre qu'Enerlis s'est doté d'une division solaire que vous présidez, Pierre-Marie.
Absolument.
Qu'est-ce qu'on y fait exactement?
Alors, on y fait beaucoup de choses. Le premier point que je voulais évoquer, c'est peut-être notre philosophie sur le solaire. On est parti d'un constat assez simple, c'est que le marché aujourd'hui de l'énergie est encore un marché très centralisé. On est encore sur un modèle un petit peu archaïque avec de gros sites de production très centralisés, beaucoup de transports et puis des consommateurs partout en France. Et nous, ce qu'on veut, c'est, avec d'autres acteurs bien évidemment, mais c'est bouleverser un peu cet écosystème-là et ancrer les productions d'énergie et les productions d'énergie renouvelable, verte, au sein des territoires. Voilà, c'est le travail commun de notre division et on est plus d'une cinquantaine répartis sur le territoire avec des périmètres de métiers extrêmement larges, de l'approche commerciale à de la construction, à de l'exploitation de centrales. Et on accompagne des acteurs diversifiés, y compris bien évidemment des acteurs publics, à accélérer cette transition énergétique.
Est-ce que vous, puisque vous parlez des territoires, je vais saisir l'opportunité, le flambeau que vous me passez pour saluer le maire de Pont-du-Casse, Christian Delbrel, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre ville?
Ben c'est une ville, on va dire, périurbaine qui se situe à portée de drop, pour prendre un jargon rugbystique de la ville d'Agen, qui est la capitale du Lot-et-Garonne. Donc on est en Basse-Garonne, entre Bordeaux et Toulouse. Donc c'est une petite ville de 4300 habitants.
C'est plutôt pas mal déjà.
Très bien.
On en est où de toutes les énergies renouvelables, de la décarbonation chez vous?
On est en pleine réflexion, en pleine action. Il ne faut pas se mentir, lors des dernières élections municipales, ça faisait partie des axes majeurs de notre projet de campagne. Je pense qu'on est aujourd'hui devant un mur, devant une impasse. Si on n'amorce pas ce virage de la transition énergétique, on va dans le mur. Et l'idée, c'était aussi de le porter à travers les élus de la République, le conseil municipal, qui doit quelque part faire prendre conscience à tout le monde que le moment est venu justement de porter des actions et de mener des politiques qui vont dans la bonne direction à travers bien sûr la transition énergétique écologique. Donc il y a beaucoup d'actions à mettre en place et on a commencé donc à Pont-du-Casse depuis le début de ce nouveau mandat à mettre en place des dispositifs et on y travaille d'arrache-pied.
C'est votre premier mandat, vous étiez déjà maire?
Je suis maire depuis 2014, je suis également conseiller départemental du canton Agen.
Donc vous connaissez bien la situation de votre commune. Est-ce que cette transition énergétique est difficile à mettre en place? On sait que ce sont des projets qui s'inscrivent dans un temps long. Par exemple, installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques, ça a l'air simple. On se dit qu'il n'y a que des bornes à poser, mais c'est des projets qui prennent quand même 2 ans en moyenne entre le plan et son exécution finalement. Du coup, est-ce que ça complique un peu les choses?
Disons que c'est un frein. La volonté, elle est là, elle est à la fois individuelle et collective, mais c'est vrai qu'il y a des délais incompréhensibles qui viennent un petit peu bloquer l'enthousiasme de l'équipe municipale. On sait que ça sera long, l'idée c'est d'enclencher. Donc on amorce, aujourd'hui on est dans une phase vraiment de réflexion, on s'est rapproché de sociétés comme Enerlis d'ailleurs, pour essayer de nous accompagner, de nous épauler, de nous guider. Il faut se dire une chose très claire, c'est que les élus aujourd'hui ne maîtrisent pas forcément la matière, la transition énergétique, c'est plus qu'un mot, il y a un côté technique, et on est là aussi pour avoir un appui effectivement technique, mais aussi financier. Donc on a besoin d'appui, on a besoin d'éléments tangibles pour être conseillé et accompagné dans notre politique de transition.
Et pour mettre les choses en place concrètement.
Complètement.
Et c'est pour ça que je me tourne vers vous, Philippe Niel. Quels sont les freins, les arguments qu'on vous oppose, que vous rencontrez, qui va pour aller vers cette transition énergétique ?
Je dirais qu'on n'a aucun argument contre. Je pense que
tout le monde est prêt à vous suivre ?
À nous suivre. Tout le monde est forcément intéressé, je dirais à deux titres, en tant que citoyen, parce que personne aujourd'hui peut dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe et des enjeux. On parle d'aller dans le mur, bon, c'est une expression qui revient très souvent, et on se dit que si on n'arrive pas à réduire ces fameux gaz à effet de serre, on va y aller dans le mur. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs, qu'ils soient à la fois publics, privés, à la fois en tant qu'acteurs et en tant que citoyens, sont forcément concernés. Maintenant, il y a des freins, on en parlera peut-être, en termes de délai, en termes de tracasseries administratives qui peuvent durer très très longtemps et faire que des projets, vous parliez de 2 ans en moyenne, peuvent durer beaucoup beaucoup plus longtemps. Voilà, donc c'est ça les freins. Mais les obstacles, aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. Hein. Et justement, c'est grâce à l'avantage d'une société comme Enlis, c'est vraiment, et le mot global n'est pas là par hasard, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, une transition énergétique, on ne peut plus la prendre petit bout par petit bout. Il faut la prendre dans sa globalité. Et la première des choses commence déjà par faire un audit de la situation, parler avec des chiffres, d'où on part, quelle est la situation exacte, et après, co-construire avec la commune, avec la collectivité, avec une entreprise, une vraie stratégie d'efficacité énergétique sur plusieurs années, et après, agir, c'est-à-dire mettre en place des plans d'action, soit de travaux, de rénovation, soit d'équipement d'ombrières photovoltaïques, soit de changer des chaudières. Enfin, ça peut toucher tout un tas de domaines. Et puis également, le nerf de la guerre, on en a parlé également, c'est les financements. Hein, et là, Enerlis également est spécialisé en ingénierie financière, c'est-à-dire aller chercher les bons supports, les certificats d'économie d'énergie dans le cadre d'une rénovation, ou les aides locales, régionales, départementales, voire européennes, pour des constructions.
Alors justement, c'est une des questions que j'allais vous poser. On en est où, vu de dehors ? On a l'impression que les subventions pleuvent, qu'il est très facile de financer cette transition énergétique parce que finalement, il y a cet élan national. Est-ce que dans la réalité, c'est vraiment le cas ?
Je dirais pas qu'on est dans le quoi qu'il en coûte, mais quelque part, c'est un petit peu la même philosophie. Ça se décline sous différents plans de relance, où là, vraiment, et c'est normal. C'est ce genre de transition, je pense que Pierre-Marie le réexpliquera pour le photovoltaïque, on le voit également pour de nouvelles énergies renouvelables comme l'hydrogène, il faut une volonté politique et il faut un support gouvernemental pour initier, parce qu'aujourd'hui, même si les prix flambent dans l'énergie, le pétrole est beaucoup moins cher, le charbon est encore moins cher et il est facile à exploiter. Donc ça veut dire que cette transition, c'est à la fois une volonté et des moyens.
Christian, c'est le cas à l'échelle de votre territoire. Vous sentez que ces aides sont finalement assez simples à mettre en place ou pas ?
Complètement. Je pense qu'on est vraiment dans la bonne fenêtre de tir. À travers, M. Niel en a parlé, des divers plans de relance qui ont été mis en place. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté. La volonté politique, elle est là. Mais elle doit être au plus haut niveau. Elle l'est et elle doit être au niveau de la commune. Au niveau du maire que je suis en première ligne pour faire passer le message auprès de mes concitoyens. Il doit y avoir une prise de conscience à la fois individuelle et collective. Donc aujourd'hui, oui, il y a des plans de relance, oui, il y a des appels à projets nationaux, où aujourd'hui, il y a de l'argent au niveau de l'État à les récupérer pour porter des projets. Je prends l'exemple sur la commune de Pont-du-Casse. On vient de réaliser donc une voie verte, une voie à mobilité durable, à travers un appel à projet national. Et ça nous permet aujourd'hui, à travers un axe prioritaire domicile-travail, de favoriser les cheminements doux. On laisse la voiture, on va au travail ou à la maison, en vélo, en trottinette ou à pied. Donc il y a aujourd'hui des fonds qui sont mis à disposition des collectivités, mais il faut qu'il y ait cette volonté politique, elle y est. Après, il y a toujours un travail très long de réalisation de dossiers, et après les lourdeurs toujours malheureusement administratives qui viennent parfois mettre un frein à des projets, et c'est bien regrettable. S'il y avait un effort à faire, ça serait justement de simplifier toutes ces démarches pour permettre vraiment d'amorcer le virage de la transition énergétique, mais de le faire encore plus rapidement.
Pierre-Marie, vous parliez tout à l'heure des territoires. Je suppose qu'il n'y a pas une seule réponse qu'on peut poser sur chacun des territoires. Il faut un plan qui soit optimal et adapté, personnalisé à chacun de ces territoires.
Alors, vous avez totalement raison. Il y a même deux points. Le premier, c'est qu'il faut déjà être dans les territoires. Et donc, ça se traduit par une organisation aussi de notre société, par une façon de déployer nos forces près des acteurs locaux, près des décideurs, près des gens qui vont nous aider à construire les solutions qui vont permettre d'accélérer la transition énergétique. Ça, c'est le premier point. Et il y a évidemment du sur-mesure à faire, du sur-mesure parce qu'on est un acteur généraliste, un acteur très global, et la solution pour répondre aux besoins de la commune de Pont-du-Casse ne sera pas celle de l'agglomération de Bordeaux. Et donc, il faut savoir jouer de ça et être à géométrie variable sur les besoins. Donc, il y a un vrai travail d'écoute et de découverte. Et puis ensuite, c'est savoir activer nous, en interne, les bonnes briques de valeur pour pouvoir répondre aux besoins. Et le cas échéant, s'il y a des briques manquantes, être capable, en créant le meilleur écosystème local, de trouver des solutions et des partenaires locaux pour pouvoir répondre aux éventuelles solutions qu'on ne maîtriserait pas en interne.
Est-ce qu'on répond aujourd'hui aux besoins présents ou est-ce qu'on en est déjà à anticiper des besoins futurs ?
Il faut savoir faire les deux. Parce qu'aujourd'hui, l'ambition et les objectifs, je vais prendre vraiment le domaine qui est mon quotidien, on va parler du solaire, les objectifs là, de transition sur le solaire, les objectifs de déploiement des énergies renouvelables photovoltaïques sur les 10 prochaines années sont tellement énormes qu'on doit déjà parfaitement maîtriser la filière et industrialiser les process qui sont les process standardisés pour faire du volume. Ça, c'est important. Et puis, on sait que on a déjà la vision de demain, la vision de virage. Tout à l'heure, on parlait avec monsieur le maire en aparté du besoin d'être capable de pouvoir vendre de l'électricité verte à des administrés qu'ils voudraient. Donc on parle de plus en plus de PPA, d'autoconsommation, de mixité des offres entre l'hydrogène dont parlait Philippe tout à l'heure et les offres solaires. Donc il faut qu'on ait une partie de nos ressources qui travaillent à l'accompagnement de la transition court terme et à côté de ça qu'on innove perpétuellement pour pouvoir accompagner les offres de demain.
Et pour le coup, la ressource est un vrai sujet, puisque faire du vert localement, c'est toujours plus compliqué. Je pense au biocarburant. C'est bien de faire du biocarburant, mais si c'est pour le faire venir de l'autre bout de la planète, ça a quand même un bilan carbone qui est plutôt moyen. Proposer des bornes de recharge avec de l'électricité, pareil, qui n'est pas forcément verte, c'est aussi un peu moyen. Ça, c'est également un enjeu, celui de la ressource.
C'est forcément un enjeu.
Est-ce qu'on l'a et qu'on ne sait pas l'exploiter, ou est-ce qu'on en manque ?
Non, on ne manque pas de ressources. On est dans une structure, dans une filière aussi qui se structure. Donc il faut aussi laisser le temps au temps de faire les choses pour pouvoir améliorer les process. Je pense qu'il y a un point, il faut être pragmatique dans ces métiers et l'enjeu est tellement important qu'il faut être capable aussi de faire du pas parfait. Du pas parfait, mais déjà mieux. Voilà. Et le parfait, on l'aura peut-être dans quelques années, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si on ne commence pas par des choses facilement activables et qui répondent à des besoins immédiats, le modèle parfait de demain, on ne l'atteindra jamais. Et on est plutôt une entreprise qui essaye d'être réaliste et qui essaye d'être pragmatique dans le marché qu'elle couvre. Et je sais qu'en face de nous, on a des acteurs qui le sont aussi. Donc nos clients, ils n'ont pas besoin de uniquement rêver dans des projets de la prochaine décennie. Ils ont besoin d'être dans le présent.
Monsieur le maire, on voit que vous êtes déjà impliqué dans cette transition énergétique. Est-ce que c'est le cas également de vos concitoyens ? Est-ce qu'ils sont attentifs à ces sujets ?
Complètement. Alors, on parlait de ressources. On a une ressource nous, qui est majeure dans le sud-ouest, c'est le soleil. Donc, le solaire est aujourd'hui devenu incontournable dans ce virage de la transition énergétique. Alors, en plus, on essaye d'intéresser, on va dire, toute la population. Parce que, je le disais tout à l'heure, mais à travers la campagne de 2020, la transition énergétique était l'axe majeur de notre programme et on sentait qu'il y avait vraiment un besoin. Alors on est en train de réaliser, on essaye de mettre en place un cadastre solaire. C'est un outil qui permettra à tous les habitants de la commune de savoir s'ils sont éligibles ou pas aux panneaux photovoltaïques. On a plus de 20 000 mètres carrés de bâtiments communaux. On est en train de faire un audit pour savoir, pour isoler, pour mettre du solaire. On est en train de revoir le changement de chaudière pour vraiment s'inscrire dans le long terme, dans cette véritable transition énergétique. Donc des projets, il y en a plein. Le plus dur, c'est de les mettre en place et d'être patient, parce qu'il faudra malheureusement du temps, on en a parlé tout à l'heure, toutes les lourdeurs administratives qui sont parfois un petit frein dans la volonté politique qu'on peut avoir, même au niveau d'une commune.
Philippe, est-ce que le temps de l'éducation est terminé ou il y a encore de la pédagogie à faire ?
Non, il y aura toujours de la pédagogie à faire. La sensibilisation est là. Ça, c'est le fait important.
Tout le monde a conscience du problème.
Voilà. Et je pense, en plus, les nouvelles générations, hein, on a des Greta Thunberg un peu partout. Elles poussent forcément. Je suis sûr qu'il y a une Greta Thunberg à Pont-du-Casse également.
Je confirme.
donc, et c'est bien. Et c'est bien. C'est, de toute manière, on sera redevable de la manière dans l'état dans lequel on a laissé la planète à un moment ou à un autre. Donc, cette sensibilisation est là. Maintenant, il faut qu'il y ait la parfaite adéquation entre la volonté et l'action. Et c'est cette transmission dans laquelle s'inscrit Enerlis pour aider, que ce soit une collectivité, une entreprise, à passer de la volonté à l'action. Grâce à l'expertise maintenant que nous avons acquis depuis de nombreuses années et, je dirais, de toute cette offre globale que nous proposons. Pour prendre une analogie, je prendrais un peu pareil qu'aujourd'hui, si vous vous dites « je veux maigrir », pour maigrir, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut une méthodologie et puis il faut un outil, une balance. Et puis peut-être d'autres choses derrière. Nous, Enerlis, on est un peu le diététicien qui va accompagner chaque entreprise, chaque collectivité, parce que comme on l'a dit aussi tout à l'heure, chacun est différent, chacun a son propre métabolisme, a sa propre vie. Donc il faut être très sélectif, il faut s'adapter, il faut customiser son offre, enfin faire du sur-mesure, pour ne pas faire d'anglicisme. Et ça, c'est très très important. Et donc, la balance, ça va être le premier élément, ça va être de se peser. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelle est votre consommation énergétique ? Et à travers donc, cet état des lieux qu'on va faire dans une entreprise, on va déterminer quels sont les principaux gisements de consommation et donc potentiellement d'économie. Et c'est là, après, on va faire ce rapport à la collectivité, lui présenter voilà tout ce qu'on a vu pendant les 3 jours. On a audité vos bâtiments et voilà ce qu'on a vu, ce qu'on a chiffré. Et voilà ce qu'on vous propose comme stratégie et les plans d'action qui déclinent derrière. Et après, ce qui est important également, c'est cette notion de partenariat local. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'imposition. On n'arrive pas avec une méthodologie déjà toute faite. On est là pour la co-construire et la travailler sur un plan local. Parce que, vous n'allez pas me contredire, je pense qu'il y a 2 choses qui vous intéressent aussi pour vous et vos citoyens, c'est le logement et l'emploi. Donc là, on coche aussi ces 2 cases, puisqu'on va travailler sur des bâtiments et les bailleurs sociaux aussi sont nos premiers clients et dans les collectivités il y a un lien très fort et puis également faire travailler des entreprises locales, c'est-à-dire nous n'arrivons pas de Paris avec des camions et des ouvriers à l'intérieur, on va travailler en partenariat avec les fournisseurs locaux et montrer et travailler sur cet écosystème.
Et ça aussi ça compte dans le bilan carbone ?
Bien sûr, dans le bilan carbone et dans la satisfaction et dans l'emploi local pour développer un écosystème.
Pierre-Marie, vous voulez rajouter quelque chose sur ce point, sur cette identité un peu locale ?
Moi, je pense qu'il y a une organisation qui est de plus en plus importante, qui mérite d'être peut-être relevée. C'est la création de plus en plus nombreuse de SEM, donc de sociétés d'économie mixte, où on sent, je trouve que c'est le parfait exemple de la synergie entre des acteurs privés, avec leurs enjeux, leurs contraintes, et puis de la volonté publique, voilà, de créer un véhicule commun, de pouvoir répondre à une ambition commune. Et au travers des territoires, nous, quotidiennement, lorsqu'on travaille auprès de clients, on sent cette résurgence-là. Et je trouve que c'est le parfait exemple du lien qu'il peut y avoir entre les acteurs privés et les besoins des collectivités publiques.
Est-ce qu'on peut imaginer mettre ces solutions en place à d'autres échelles qu'à l'échelle d'une commune ou d'un petit territoire ? Monsieur le maire, est-ce que vous avez réfléchi peut-être à ces transitions à l'échelle de la région, du département également ?
Alors, au niveau de la commune, c'est vrai qu'on est dans la réflexion. Au niveau de l'EPCI, donc l'agglomération d'Agen qui représente 100 000 habitants, on réfléchit évidemment à peut-être changer notre flotte de bus, à tendre à terme vers des bus à hydrogène. On est dans une réflexion. Il y a des choses qu'on peut porter au niveau de la commune, il y a des choses qu'on doit porter au niveau des communautés de communes, des agglomérations ou des départements. Voilà. Je crois qu'il faut que chacun reste vraiment dans son champ d'action. Nous, l'idée, elle est simple sur Pont-Lucas. À terme, c'est de rendre notre ville plus verte, plus autonome, plus solidaire et plus décarbonée. Donc c'est la feuille de route, ça prendra du temps, mais l'idée c'est d'amorcer. La volonté, je le disais, elle est présente. Et quand la volonté est là, je crois qu'on a déjà fait 90% du travail.
Le mot a été prononcé hydrogène. Philippe, c'est la filière qui émerge en plus du solaire ou de l'électrique ?
Oui, absolument. Et nous, en plus, vous aviez parlé tout à l'heure d'hydrogène vert, hein, parce que la manière de le produire est très importante. Et c'est là où, justement, la spécificité Enerlis est très importante. C'est que nous, ce qu'on veut, c'est combiner des solutions photovoltaïques avec la production d'hydrogène. C'est-à-dire que l'électricité qui servira à réaliser l'électrolyse sera fournie par des panneaux solaires qu'on aura mis en place. Au mieux.
Donc, on le fait aussi étape par étape. Je me permets juste de te couper, Philippe. Je prends un exemple concret. Tout à l'heure, vous disiez, est-ce qu'il vaut mieux avoir des solutions moyennes tout de suite ou des solutions parfaites dans 10 ans ? Aujourd'hui, on a lancé une filiale qui s'appelle GreenEye, dont l'objectif est justement de développer les solutions d'hydrogène. Et on commence étape par étape avec de l'hydrogène décarboné, donc de l'hydrogène issu d'énergie fatale, mais d'un process industriel classique, pour pouvoir être en mesure de produire et de distribuer en fonction de l'avancée des demandes. Hein. Quand Monsieur le maire aura son parc de bus à hydrogène, on sera parfaitement en mesure de pouvoir le livrer en hydrogène gris puis vert. Donc on démarre par ça. Et puis l'objectif à terme, c'est de pouvoir créer encore plus de synergies en développant des parcs photovoltaïques ou en mixant avec d'autres énergies vertes à proximité, de pouvoir avoir de l'hydrogène vert décarboné sur les territoires, sur des sites de production sécurisés qui permet de distribuer, et là ça sera forcément des volumes importants, donc ça rayonnera au-delà du territoire qui héberge le site de production, ça sera à la maille d'un département ou d'une région.
Ça veut dire quoi qu'on peut imaginer une espèce d'économie circulaire des ressources ?
Exactement, économie circulaire et circuit court, ce sont des éléments de langage qu'on utilise dans beaucoup d'autres marchés et qui, à notre sens, conviennent parfaitement aux enjeux de la transition énergétique du marché de l'efficacité énergétique dans lequel on se trouve.
Donc concrètement, ça pourrait se traduire par la réutilisation d'une ressource pour en fabriquer une autre ?
La réutilisation de ressources, le bon usage en local, garder de la compétence ou des ressources naturelles qui sont à proximité avant d'aller de tourner la tête à 500 km pour pouvoir s'en procurer. C'est tout un tas de bonnes pratiques qui permettent derrière de créer de la valeur intelligente au sein d'un territoire.
Philippe, vous avez insisté tout à l'heure sur l'aspect généraliste d'Enerlis. Est-ce que ça veut dire qu'il vous faut nouer peut-être des partenariats un peu stratégiques avec d'autres acteurs plus spécialisés ?
Oui, on veut Enerlis porter la responsabilité. Ça, c'est une chose très importante également, c'est que dans tous les contrats que nous signons, Enerlis s'engage. Pas simplement sur les moyens, mais sur les résultats. Ça, c'est quelque chose qui est très important également et que nos clients apprécient hautement, c'est-à-dire c'est ce niveau d'engagement. Après, on a bien sûr nos experts en interne, que ce soit des bureaux d'études, que ce soit dans des conducteurs de travaux, mais il y a des cas particuliers, effectivement, où on est là pour aller chercher la bonne expertise sur un point particulier. Je prendrai un exemple simple, par exemple, c'est l'éclairage, où là, qui est également un élément très important d'économie, hein, parce que je rappelle qu'en France, il y a plus de 9, pratiquement 10 millions de points lumineux en France, qui consomme pas loin de 5 téra par an d'économie. Et là, il y a 2 milliards de coûts de consommation électrique rien que pour l'éclairage public. Il y a vraiment des économies réalisées. Et là, on s'est associé avec un partenaire, par exemple, qui s'appelle le Studio LED, qui est spécialisé dans l'éclairage public, avec lequel nous menons des projets en commun, justement, et des propositions. Mais je dirais, le maître d'œuvre, le responsable face aux clients, ça reste Enerlis. Et ça, c'est très, très important. C'est quelque chose que nous ne déléguons jamais, c'est notre responsabilité.
Monsieur le maire, en tant qu'élu, quand vous entendez un acteur vous dire « nous prenons la responsabilité des choses », c'est rassurant ?
Ah, complètement. On est dans une matière qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, elle est technique, donc on a besoin d'une ingénierie. Donc le groupe Enerlys peut apporter cette ingénierie, d'autres groupes le font aujourd'hui et on doit se rapprocher. Les compétences, elles sont là. On a besoin vraiment, nous, d'avoir des conseils précis, avisés, par des vrais professionnels de la transition énergétique. On ne peut pas s'improviser aujourd'hui en tant qu'élu professionnel. Donc on a besoin de ces conseils, de ce guide. Et c'est vrai que M. Niel parlait de l'éclairage public. Là, je tends la perche. C'est vrai qu'Enerlys pourrait venir faire un audit sur la commune de Pont-Lucas pour le relamping. Il y a là des vraies sources d'économie pour la commune.
Il y a des propositions qui sont faites sur ce plateau.
On échangera nos cartes.
Paris tenu. Comment ça, c'est pas déjà fait? En vous écoutant, j'ai l'impression que l'élu qui a la connaissance et vous, une entreprise comme Enerlys qui a les compétences, c'est finalement l'équation idéale pour aller vers cette transition énergétique qui devient urgente. Philippe ?
Oui, c'est gagnant-gagnant en fait. Hein. C'est la bonne alchimie et je dirais avec tous ces moyens qui sont mis autour. C'est notre responsabilité de les mettre en action. Je pense que le gouvernement, à travers les différents plans, les moyens financiers, parce que ça, c'est quand même le nerf de la guerre, on ne va pas se mentir. Hein. Aujourd'hui, à travers les certificats d'énergie, toutes les subventions qui sont là, il faut pouvoir en tirer parti. Et c'est là notre rôle, à la fois de la côté des élus, de prendre cet engagement, et le côté d'Enerlys, de les accompagner pour faire au mieux. Parce que la manne financière, elle n'est pas non plus illimitée, ce n'est pas un puissant fonds non plus. Donc il faut vraiment optimiser les ressources aux endroits les plus précis. Et c'est pour ça que je reviens à cet état des lieux, cet audit que nous faisons avant toute relation, c'est-à-dire vraiment connaître les points les plus importants où peuvent être apportées les économies les plus rapidement avec le retour sur investissement le plus rapide également. C'était notre matière de travailler.
Monsieur le maire, connaissances, compétences, est-ce qu'il manque quelque chose ou est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir tous les outils en main pour enclencher un peu plus cette transition énergétique?
Ouais, je souscris pleinement à ce qu'il vient de dire, c'est du gagnant-gagnant. Ce qui manque aujourd'hui, c'est les réalisations, c'est du visible. On est aujourd'hui dans la réflexion, il y a la volonté, on compte sur un groupe comme Enerlys pour aussi nous recentrer sur les priorités. On ne peut pas tout faire aujourd'hui, on part un petit peu dans tous les sens. On a engagé ce virage de la transition énergétique, mais il faut y aller étape par étape. Ce qui manque aujourd'hui, c'est les réalisations. On en revient toujours à ces délais qui sont incompressibles et sous lourdeur administrative qui nous empoisonnent un petit peu la vie. Ce qu'on veut, c'est du concret aujourd'hui. Donc la première phase, c'est la réflexion, c'est l'audit, c'est la volonté. Tout est en place, tous les ingrédients sont là. Maintenant, on veut du concret, on veut de la réalisation pour montrer vraiment à nos concitoyens que ce virage, on l'a annoncé, mais on est en train de le réaliser. Et c'est important de pouvoir le matérialiser à travers de l'isolation, du relamping, à travers la pose de photovoltaïque, à travers beaucoup d'actions qui vont démontrer qu'on est vraiment sur la voie de cette transition attendue par tous.
Pierre-Marie, un petit mot là-dessus, vous sentez encore peut-être des obstacles qui empêcheraient d'aller ou plus loin ou plus rapidement vers les objectifs ?
Des obstacles, il y en aura toujours. Je vous donne un exemple assez concret, qui est très court terme. Nous, le développement du solaire se fait encore énormément au travers d'un cadre tarifaire réglementé par l'État. On avait eu une annonce début 2020 au Salon de l'Agriculture 2020 avant les périodes un peu compliquées qu'on a tous traversées. Une annonce sur une simplification de cette méthodologie tarifaire pour un certain nombre de projets. Le déclenchement réel, la mise en action réelle n'est faisable que depuis octobre 2021. Donc il a fallu se préparer, croire quand même dans le potentiel d'un certain nombre de marchés, investir nous sur ces sujets-là. Même si la certitude de pouvoir les développer et les mener à bien était encore en pointillé. Donc on a appris à jouer avec cette incertitude, avec cette inertie. Bien évidemment, il est de notre responsabilité aussi, comme les acteurs publics, de porter haut et fort nos demandes, de proposer des choses. On le fait pour la partie solaire, par exemple, au travers d'un certain nombre de syndicats, comme le CER, comme Enerplan. On remonte nos contraintes, on remonte nos demandes, qui sont des demandes qui sont du bien commun pour accélérer la transition énergétique. Donc il faut composer avec ça et être force de proposition. Et je pense que l'important, c'est de ne pas avoir de regrets et d'avoir mis tout en œuvre pour pouvoir aller au maximum de ce que le potentiel du territoire nous permet de faire en bonne intelligence, bien évidemment.
on peut dire que dans le solaire, on est quand même plutôt bien avancé. Ça a été un des premiers grands ressorts qu'on a proposé au grand public en matière de transition énergétique et de rénovation énergétique des bâtiments. On en est où aujourd'hui ?
Alors, c'est quand même une filière qui a eu des hauts et des bas aussi, hein. Il faut le rappeler. Le début des années 2010 ont été un peu chaotiques pour la filière. Il y a eu des moratoires qui ont un peu sclérosé le business pendant quelques années. Effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie reprise nette. Une filière aussi qui se structure et qui se professionnalise beaucoup. D'ailleurs, nous, on œuvre énormément pour ça, Enerlys, on œuvre pour la création d'une filière d'excellence, pour que toutes les ressources et toutes les compétences, notamment dans le photovoltaïque, en matière de développement, en matière de pose, qu'on ait une éducation qui soit faite, notamment pour les plus jeunes, pour avoir une filière aussi d'emploi en local, qui peut avoir des issues extrêmement, extrêmement intéressantes. Donc tout ça fait partie d'un écosystème, et l'avenir est devant nous, parce que les objectifs de la PPE qui dictent un petit peu le futur du développement énergétique et solaire en France nous demande d'accomplir des prouesses en termes de croissance, hein, x3, x4 sur la prochaine décennie. Donc on n'est qu'au début de l'histoire et le 80% de la course reste à faire, et reste à faire de façon collégiale avec tous les acteurs.
Philippe, on a parlé solaire, on a parlé électricité, on a parlé hydrogène. Est-ce qu'il y aurait d'autres outils qu'on aurait pu oublier, ou même certains qui n'existent pas encore mais qui sont en développement ?
En développement, il y a... Je dirais aujourd'hui, on parle beaucoup de mix énergétique. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas un seul levier pour être plus vertueux, pour vraiment réduire ces gaz à effet de serre. Donc il faut jouer sur tous les registres. Mais je veux dire, par exemple, dans la rénovation, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a encore énormément de passoires énergétiques, hein, dans le logement. Et donc, ça veut dire que derrière ce mot passoire énergétique, vous avez des gens qui vivent dans des appartements dans lesquels ils ont froid quand ils se lèvent le matin. Donc tout ça, c'est du concret. Et je pense que là aussi, il faut être très pragmatique et il faut aller sur les urgences. Donc il faut à la fois manier ce côté opérationnel au quotidien et puis être dans l'innovation, dans le futur. Nous également, on travaille également, par exemple, vous nous avez parlé de partenariat, tout à l'heure je vous ai parlé donc d'éclairage public, mais on est aussi avec une société qui travaille sur le bois, hein, parce que ça aussi, le bois est aussi quelque chose de très vertueux aussi pour le futur, qui s'appelle Tech et Habitat, et qui nous permet de faire des surélévations très légères sur des bâtiments, avec des choses très opérationnelles, avec une empreinte carbone zéro, voire même négative. Voilà, ça, tout ça, c'est du concret, c'est pas de la science-fiction. C'est ça aussi qui est important.
Pierre-Marie.
Et oui, peut-être pour préciser aussi également deux points qui méritent d'être relevés sur cette thématique-là. On a lancé également deux offres qui sont encore émergentes, qui sont en pure création, en pure réflexion. Une offre autour de la compensation carbone. Parce que finalement, en tant qu'acteur global, mais finalement, on parle au monde agricole, c'est énormément le cas sur la partie solaire, hein, donc je suis bien placé pour le savoir. On parle aux acteurs publics, bien évidemment, on parle aux entreprises, et finalement il y a énormément de synergies aussi à mettre en relation ces acteurs-là ensemble pour pouvoir créer quelque chose de commun. Et aujourd'hui, lorsqu'une entreprise vient nous voir en disant « j'ai besoin de mener une action de compensation carbone », alors certes, avant ça, on va faire tout notre travail habituel d'essayer de déjà lui faire consommer moins et potentiellement produire de l'énergie renouvelable. Mais au-delà de ça, l'étape d'après, c'est potentiellement travailler avec le monde agricole pour mener sur les territoires ruraux des actions qui vont créer de la valeur économique, qui vont créer de la valeur en termes d'usage et qui vont permettre à des entreprises, donc à l'autre bout de la chaîne, de pouvoir atteindre leurs objectifs de décarbonation. Voilà, donc il y a tout ce genre aussi de briques additionnelles qui sont en perpétuelle réflexion. Il n'y a pas un semestre où on n'essaye pas de rajouter une brique de valeur pour rendre l'équation encore plus complète.
Des idées aussi peut-être qui viennent d'élus, de maires impliqués, comme celui que nous avons ce matin.
Oui, moi je peux vous en citer un, parce que c'est quelque chose de récent. On était, c'était dans le sud-ouest également, on était en discussion avec un maire il y a une quinzaine de jours qui avait reçu, quelques jours auparavant, un professionnel de la géothermie. Sujet sur lequel on n'avait absolument jamais posé de jalon. Et on l'a rencontré, et effectivement, il y a potentiellement des synergies, et ça, c'est des synergies issues quelque part du retour d'expérience des acteurs locaux, des acteurs publics, en disant bah, effectivement quand on a une action de géothermie qu'on va creuser pour pouvoir dégager une source d'énergie, bah, potentiellement la surface qui est au-dessus, on peut peut-être l'exploiter pour faire du solaire et avoir un double, voire un triple usage du foncier. Voilà, c'est un exemple que je vous cite parce qu'il est extrêmement récent.
Monsieur le maire, on va terminer avec vous si vous le voulez bien.
Avec plaisir.
Est-ce que vous avez inspiré certains de vos confrères maires avec vos initiatives?
Alors, inspiré, je ne sais pas. En tous les cas, je sens, au niveau notamment de notre agglomération d'Agen qui regroupe 31 communes et plus de 100 000 habitants, qu'il y a une volonté partagée. Donc là, les envies des uns et des autres, on va dire, convergent vers cette même transition. Chacun a ses idées en fonction de la situation de sa commune. Je pense que notre piste cyclable, donc notre voie verte à mobilité durable, a inspiré pas mal de communes voisines parce que effectivement, ça s'inscrit dans le bon sens avec cette favorisation du cheminement doux pour notamment se rendre sur les lieux de travail. Et je pense que ça participe aussi à cette transition. Après, chacun voit midi à sa porte. J'ai envie de dire que les projets qu'on porte, les uns ou les autres, qu'ils soient différents, finalement, ils vont tous dans le même sens. C'est le sens de la transition énergétique appelée par tous.
Merci beaucoup, monsieur le maire Christian Delbrel, le maire de Pont-du-Casse. On était ravis de vous recevoir ce matin sur ce thème de la décarbonisation des territoires. Merci beaucoup. Et avec nous, deux représentants d'Enerlys, Philippe Niel, le directeur commercial, merci à vous. Merci. Et Pierre-Marie Berlingéry, le directeur de la division solaire. Merci à tous les deux. C'était passionnant. Cette émission est désormais disponible en podcast. N'hésitez pas à la revoir. Je vous souhaite une très bonne journée.
Décarboner les territoires, une émission en partenariat avec Enerlys.